Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Ravi de vous retrouver, fidèles auditeurs, téléspectateurs et internautes de Studio Tamani. Alors, le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui est « Quel rempart contre le travail des enfants au Mali ?» Le 12 juin de chaque année est célébrée la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants au Mali sur 7 millions d'enfants de 0 à 7 ans en 2020. 2,5 millions, soit 35%, exerçaient une activité économique selon l'ONG World Vision. C'est pourquoi cette année, le thème choisi est « Le pouvoir des femmes ». Un rempart contre les pires formes de travail des enfants. C'est pour mieux impliquer les femmes à lutter contre le phénomène au Mali. Qu'est-ce que le travail des enfants? Pourquoi il est important aujourd'hui d'impliquer les femmes dans la lutte? On en discute aujourd'hui avec nos invités qui sont Maître Khadija Sangaré Koulibaly. Elle est membre du CNT et présidente de la commission promotion de la femme, de la famille et protection des enfants. Bonsoir Madame Khadija. Notre second invité est Madame Traoré Marietou, c'est nous, excusez-moi. Elle est la secrétaire exécutive de l'association Bienfaisance pour l'enfance au Sahel et les initiatives citoyennes BESIC. Bienvenue.
Merci, madame.
Notre troisième invité est Gaoussou Mohamed Diallo. Il est le trésorier général du Parlement des enfants. Je suis Mariam Koulibaly. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, nous allons donner la parole à M. Gaoussou Mohamed Diallo, qui est le trésorier général du Parlement des enfants. Déjà, il va donner une brève explication de son organisation, qui est le Parlement des enfants, avant de répondre à la question qui est de savoir la définition même du travail des enfants. Qu'est-ce que vous comprenez par travail des enfants? Bien avant, et présenter un peu le Parlement des enfants.
OK. Merci d'avoir posé cette question. Merci. Le Parlement des enfants est une organisation qui est là pour défendre le droit des enfants. Il y a un bureau national et il y a des bureaux dans chaque région du Mali. On est en collaboration avec la Direction nationale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et aussi avec l'UNICEF et avec diverses ONG pour défendre le droit des enfants.
D'accord. Maintenant, la question, qu'est-ce que vous comprenez par le travail des enfants?
Okay. Le travail des enfants, c'est lorsque les enfants exercent des activités économiques ou productives qui peuvent compromettre leur éducation, leur santé, leur développement. Mais mis à part cela, il y a diverses formes de travail, telles que le travail dans les mines, le travail dans les usines, le travail dans les plantations et aussi la prostitution.
D'accord. Avant de développer toutes ces formes de travail, nous allons donner la parole à Mme Traoré Marietou Sénou. Elle est la secrétaire exécutive de l'association Bienfaisance pour l'enfance au Sahel et les initiatives citoyennes BESIC. Dans quel domaine intervenez-vous, et Mme Traoré, et avant de répondre à la question?
Merci beaucoup, Mme Maria. Mm-hmm. Merci de nous avoir offert ce plateau pour nous exprimer également, de partager ce que nous faisons en termes d'éducation des enfants et les droits des enfants. L'association Bienfaisance pour l'enfance, l'objectif principal même, c'est non seulement d'améliorer les conditions de vie des enfants. Chaque enfant a droit à l'école et surtout les enfants de la rue. On travaille beaucoup par rapport à ça.
D'accord. Et qu'est-ce que le travail des enfants vous évoque? Parce que vous étiez aussi à la célébration de cette journée au Mali.
Bon, comme je viens de dire, l'objectif global même de notre organisation, c'est-à-dire tout ce qui concerne, tout ce qui va nuire au développement d'un enfant, c'est-à-dire de nuire à son éducation, de nuire à son développement, de nuire même à son état de santé. Nous luttons catégoriquement sur ça. C'est pour cette raison. Si nous, on dit le travail des enfants, on dit non au travail des enfants.
Vous dites non au travail des enfants. C'est sur ces mots que nous allons donner la parole à Maître Khadija Sangaré Koulibaly. Elle est membre du CNT et présidente de la commission promotion de la femme, de la famille et protection de l'enfant. Qu'entendez-vous par le travail des enfants au Mali?
Merci beaucoup, Mariam. Avant de répondre à votre question, je voudrais vous remercier pour cette opportunité et que vous venez de nous offrir pour nous exprimer sur le travail des enfants. Vous savez, nous sommes des parents et nous ne sommes pas insensibles à tout ce qui touche les enfants. Donc, pour moi, le travail des enfants, c'est surtout en milieu rural, beaucoup en milieu rural. Mm-hmm. Si vous parlez du travail d'enfants, moi, je pense à la pauvreté. Souvent, c'est la pauvreté qui pousse beaucoup de parents à mettre leurs enfants en bas âge au travail. Et j'ai constaté que généralement, c'est en milieu rural, mais aussi dans l'agriculture, que les enfants travaillent beaucoup. Nous avons tous travaillé. Mm-hmm. Moi-même, je suis enfant, à mon enfance, j'ai travaillé. J'ai dit enfant, je ne suis plus enfant. Mm-hmm. j'ai beaucoup travaillé parce que je viens d'une zone rurale. Donc, pour moi, le travail, un travail pour l'enfant, c'est un travail. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Un enfant, c'est quelqu'un qui a moins de 18 ans. Donc, la loi dit que l'enfant ne doit pas travailler avant 15 ans. Donc, généralement, on a constaté que les enfants travaillent avant 15 ans et surtout des travaux qui sont pas adaptés à leur âge. Je crois que c'est cette forme-là que nous sommes en train de combattre.
D'accord. Quand on entend parler du travail des enfants, est-ce à dire qu'avant l'âge de 15 ans ou bien avant l'âge de 18 ans, l'enfant ne doit rien apprendre et doit rester comme ça à l'école ou bien doit rester à la maison et ne doit pas être initié à aucune forme d'activité professionnelle?
Normalement, l'enfant doit aller à l'école. Mm-hmm. Normalement, c'est ça qui est recommandé. L'enfant doit aller à l'école. Mais faire travailler un enfant pour l'empêcher d'aller à l'école, mm-hmm. c'est ce qui n'est pas bon. Sinon, l'enfant peut travailler selon son âge, mais l'empêcher, un travail qui l'empêche d'aller étudier, ça c'est pas une bonne... Et puis, il y a les pires formes de travail. Il y a des formes, quoi. Le travail de l'enfant, il y a des formes, il y a plusieurs formes.
On va arriver à ces pires formes. Ouais. Bien avant, on va donner encore la parole à M. Gaussou Mohamed Diallo. Comme l'a évoqué votre co-débattrice, elle a parlé des causes. L'une des causes serait la pauvreté. Est-ce que vous êtes du même avis que c'est la pauvreté qui pousserait certains parents à envoyer leurs enfants à travailler en milieu urbain?
Oui, merci de m'avoir donné la parole tout d'abord. Oui, je suis d'accord avec elle. Il y a la pauvreté, mais au-delà de la pauvreté, il y a d'autres facteurs qui peuvent pousser les enfants à travailler. Mm-hmm. Déjà, il y a la tradition d'abord. Mm-hmm. La tradition qui peut pousser, parce qu'il y a certaines pratiques traditionnelles qui est là. C'est une réalité qui est encore présente dans nos villages, qui pousse les enfants, surtout les jeunes filles, à exercer des métiers vraiment dont elles ne sont pas en force de soutenir.
Mmh. Alors, Madame Traoré et Marie Toussenou, qu'est-ce que vous pensez des différentes causes évoquées par vos co-débatteurs?
Merci, Mariam. Je suis également du même avis que mes co-débatteurs, mmh. puisque la plupart des cas, quand vous analysez les causes profondes, mmh. la plupart des cas, c'est uniquement la pauvreté. Parce que quand Maître Khadija vient d'évoquer, c'est surtout en milieu rural. Dans le milieu rural, non seulement il n'y a pas assez pour manger, bon, l'enfant est délaissé pour aller chercher, ou bien pour aller cultiver, ou bien pour aller même dans les zones d'orpaillage, pour aller chercher de quoi à manger en famille. C'est là, quand on voit avec les études, c'est uniquement à travers les causes profondes, c'est la pauvreté et les causes traditionnelles également.
Donc, la principale cause reste la pauvreté.
Oui.
Donc, avant de donner la parole à Maître, nous allons d'abord écouter un reportage de M. André-Pascal Koulibaly. Il est le manager de l'ONG World Vision. Dans le cadre de la célébration de la journée de lutte contre le travail des enfants, il a eu à faire des déclarations. On va l'écouter, puis on revient dans le studio.
Et au Mali, sur 7 millions d'enfants de 5 à 17 ans, en 2020, 2,5 millions, soit 35%, exercent une activité économique. Et parmi eux, 80,7% sont astreints au travail des enfants abolis parmi les enfants travailleurs. Et 75% sont âgés de 5 à 14 ans. On estime qu'il y aurait à peu près 100 000 aides ménagères originaires des zones rurales. Cette situation fait perdurer un système d'exploitation des filles, souvent très jeunes, entre 9 à 14 ans. Il faudra aussi noter que suite à l'insécurité au nord et au centre du pays, occasionnant la fermeture des écoles, les déplacements massifs et la pandémie de la COVID-19, beaucoup d'enfants ont été exposés aux pires formes de travail des enfants dans les sites d'orpaillage traditionnels, aussi dans les champs de coton, de riz, confrontés au tri des déchets, surtout à Bamako.
Alors, M. Pascal vient d'évoquer certaines causes, notamment l'insécurité. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître?
Oui, je pense que c'est vrai. Moi, mm-hmm. j'allais dire ça aussi, c'est-à-dire que les crises humanitaires, mm-hmm. lors des conflits, les enfants sont souvent exploités. Et surtout, on les met dans la guerre. Mm-hmm. Ils deviennent des enfants soldats. On les recrute par force, mm-hmm. Surtout les groupes armés les recrutent. Donc, en plus de la pauvreté, il y a les crises humanitaires. Il y a aussi le fait que c'est bon marché, c'est une main d'œuvre bon marché. Mm-hmm. Il y a des employeurs aussi qui aiment recruter des enfants parce que non seulement ils travaillent rapidement et bien, et puis c'est à bon marché. Ça aussi, ça fait partie des causes.
Il a évoqué quelques chiffres concernant les aides ménagères qui viendraient des zones rurales vers les zones urbaines. Qu'est-ce que ces chiffres reflètent pour vous?
Je pense qu'il a fait ils ont fait une étude sur ça. Mm-hmm. Donc, ces chiffres doivent être réels. Mm-hmm. Et je n'ai pas d'observation par rapport à ça. Mm-hmm. Mais toutes les familles dans les villes ont des aides ménagères. Donc, aussi, nous constatons que dans les familles, dans chaque famille, il y a des aides ménagères. Donc, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Nous avons tous des aides ménagères à la maison.
Selon vous, est-ce que le phénomène est en baisse ou bien en hausse actuellement au Mali?
Bon, nous n'avons pas fait, je n'ai pas fait d'études sur ça. Mm-hmm. Mais ce qui est sûr, c'est que je dirais que le phénomène d'aide ménagère là, est en baisse un peu. Mm-hmm. Mais je n'ai pas fait d'études là-dessus. Mm-hmm. Parce que maintenant, surtout il y a des périodes pendant l'hivernage, beaucoup rentrent à la maison, mm-hmm. beaucoup retournent à la maison. Nous avons toutes des difficultés maintenant pour avoir des aides ménagères.
D'accord. Alors, M. Gaussou Mohamed Diallo, il a parlé aussi de la présence des enfants sur les sites d'orpaillage et les enfants aussi qui seraient dans les rues et sur les décharges à ramasser les ordures et des bouts de métaux. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène?
Ok. Tout d'abord, merci d'avoir posé cette question. Ça, c'est une réalité, en fait. Mm-hmm. C'est une réalité. Avec l'ONG Right to Play, le Parlement a suivi une formation sur ça. C'était par rapport au projet FEMA, les femmes et enfants des communautés minières artisanales au Mali. Mm-hmm. Et ça, c'est une réalité. On constate qu'aujourd'hui, au Mali, il y a de plus en plus d'enfants qui sont tentés par l'orpaillage traditionnel. Vraiment, c'est une réalité ici au Mali.
Madame Traoré-Marie Toussaint, qu'est-ce que vous pensez de la présence des enfants sur les sites d'orpaillage et sur les décharges?
Bon, c'est malheureusement pour nous. Uh-huh. Ce qu'on peut constater, puisque la population malienne est tellement jeune, si les chiffres dont André Pascal vient de dire, à peu près 7 millions d'enfants de 5 à 17 ans, ils sont tellement présents dans les sites d'orpaillage que leur avenir en dépend, puisqu'ils ont déjà pris le goût même de l'argent. Ils sont exposés non seulement à la mort, à la drogue et à la prostitution. Alors que quand on doit parler d'un État, on parle d'abord de la jeunesse. Et cette jeunesse, ce n'est rien d'autre que c'est les enfants, c'est les jeunes. Mais si cette jeunesse est déjà vouée dès la bas âge, ils sont voués à l'échec. Quelle jeunesse, quel état on va parler? Quel ménage on va parler? Quelle famille on va parler? C'est vraiment dommage. Il faut que l'État aussi encadre ça et comprend déjà qu'il y a des mesures qui existent déjà et que ces mesures aussi soient appliquées à la lettre.
Est-ce que vous savez les tâches que ces enfants-là font sur ces sites d'orpaillage?
Les tâches, qu'ils font là-bas, généralement? Voilà. Quand on a parlé, il y a certaines études qui le font, qui le disent. Les tâches, ils font tous les tâches, presque comme les adultes. Les enfants sont exposés, sont exploités comme les adultes. On ne pense même pas, puisqu'il y a des cas aussi que nous recevons. Et ces cas-là, c'est des petites filles mineures qui sont violées, qui sont mises également dans la drogue, les jeunes garçons aussi qui sont mis dans la drogue. Et si c'est de l'argent, comme Maître l'avait dit, de gains faciles et rapides. Bon, un enfant qui n'a même pas 17 ans, qui commence à prendre de la drogue, qui commence à consommer également de la prostitution, quel avenir pour ses enfants?
Alors, Maître Khadija Sangaré Koulibaly, on l'a effleuré au début de l'émission, mais quelles sont les pires formes de travail des enfants qu'on rencontre généralement au Mali ici?
Au Mali ici, les pires formes de travail qu'on rencontre, vous venez de le dire, mm-hmm. le travail sur les mines. Mm-hmm. est vraiment, c'est ce qu'on appelle les travaux dangereux pour les enfants. Là, parce qu'ils sont exposés, à des sévices psychologiques et même sexuels. Il y en a qui font la prostitution, il y en a qui vendent de la drogue et ils prennent de la drogue. Quand ils vendent, un jour ou l'autre, ils vont prendre de la drogue. Ils sont confrontés à des machines. Souvent, ils manipulent des machines, du matériel ou des outils vraiment dangereux, avec des produits dangereux, ou des lourdes charges. Et les mines peuvent tomber aussi. Les puits des mines peuvent aussi s'effondrer avec eux. Donc, vraiment, c'est des conditions qui s'effectuent dans des conditions particulièrement très difficiles. Et souvent, ils passent des longues heures, la nuit, à des heures impossibles, ils sont en train de travailler. Donc ça, c'est des pires formes de travail. Ça. Donc, les pires formes de travail, on peut parler aussi quand les enfants sont exploités pour faire la pornographie. Ça, c'est des pires formes de travail. Il y en a qui font la pornographie.
Et ces cas existent ici au Mali?
Bon, au Mali, je ne sais pas. Mais tout est possible dans les mines. Mm-hmm. Tout est possible dans les mines. Mais au Mali, quand même, on parle surtout des mines, quoi. C'est ça, là-bas, il y a des conditions très difficiles. Des enfants, non seulement les machines, là, ils manipulent des machines. Ils n'ont pas l'âge de manipuler ces machines-là. Et on les utilise pour aller vendre de la drogue. On les utilise pour aussi peuvent être des prostituées. Les filles qui sont là-bas, on peut les exploiter sexuellement. Donc, voilà, entre autres, quelques pires formes de travail que je connais au Mali, comme vous avez dit, au Mali. Mm-hmm. Au Mali. Bon, il y a dans les champs de coton aussi, je pense qu'il y a le travail des enfants. Et bon, on ne peut pas dire que c'est... Ça dépend de l'âge de l'enfant, justement. Ça dépend de l'âge des enfants, parce qu'il y a des enfants, à partir de 15 ans, je parle sous le contrôle du Parlement des enfants, je pense qu'à partir de, à partir de 15 ans, ça va, mais avant 15 ans, si vous amenez des petits-enfants dans des champs de coton à des heures impossibles, les heures de travail, ça aussi, on peut qualifier ça comme vraiment pire forme de travail.
Mais à qui profite réellement le travail des enfants? Est-ce aux parents ou bien à l'enfant lui-même?
Bon, généralement, c'est les parents. Mm-hmm. Parce qu'ils travaillent. Bon, ça profite aux parents et à l'employeur. Mm-hmm. Aux parents, mm-hmm. parce qu'ils travaillent pour subvenir aux besoins des familles, de toute la famille. Généralement, c'est ça. Souvent, ils travaillent aussi sans rémunération. Si c'est dans le cadre familial, ils peuvent aller travailler, ils ne sont pas payés. Ça peut arriver. Mais quand la maman ou le papa l'envoie travailler pour amener de l'argent, pour subvenir, par exemple, là, vous avez des enfants ici, à Bamako, qui font ça pour amener de l'argent dans la famille, à cause de la pauvreté de la famille. Donc souvent, ils sont rémunérés, souvent, ils ne sont pas rémunérés. Quand ils sont rémunérés, c'est pour amener de l'argent dans la famille. Dans tous les cas, ça ne profite pas. Je ne pense pas que ça profite à l'enfant.
Est-ce que vous êtes du même avis, M. Gaussou, que le travail des enfants ne profite qu'aux adultes et non aux enfants?
Oui, je suis du même avis que Tanti. Mm-hmm. Parce que moi, je pense qu'on doit vraiment interpeller aussi le Conseil national de patronat au Mali. Mm-hmm. Parce qu'il y a des sociétés ici au Mali qui abusent vraiment des enfants. Mm-hmm. Qui abusent vraiment des enfants, oui.
D'accord. Donc, vous pensez que les entreprises ne devraient pas travailler avec les enfants?
Non. Les entreprises ne devraient pas travailler avec des enfants. Mmh. Parce que le Mali a ratifié des conventions de l'OIT qui éradiquent le travail des enfants. Je pense que chaque entreprise ici au Mali doit respecter ces conventions.
Alors, Madame Traoré, Marie Toussaint, on l'a dit dans le débat que le travail des enfants profiterait uniquement aux adultes, comme les parents ainsi que les employeurs. Mais dans le cas des aides ménagères qui viennent et chercher de l'argent et constituer leur trousseau de mariage, est-ce que quelque part ce travail-là ne leur profiterait pas, entre guillemets?
Oui, parce que dans les deux cas, mm-hmm. je vais parler surtout sur quelques exemples mm-hmm. qu'on a vus, on a vécu. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au niveau en milieu urbain, ils envoient les enfants, mais peut-être chaque 6 mois, c'est les parents qui appellent, il faut envoyer l'argent. Quand le moment dont l'enfant doit partir, l'enfant, normalement, il doit avoir ses gains pour aller consommer ces trousseaux. Mm-hmm. Mais finalement, quand l'enfant doit partir, tu trouveras que les parents ont tout bouffé. Finalement, une fois même, on a interpellé certains parents par rapport à cette situation. Parce que non seulement nous, on pense que c'est une exploitation. Vous envoyez l'enfant qui n'a même pas l'âge de 18 ans, non seulement elle vient travailler pour chercher quoi pour elle, mais tout son argent, vous prenez, vous mangez. Et au final, quand elle doit rentrer, elle n'a rien. Et à celle dont il parle, si ce n'est pas une mère qui est une mère reconnaissante, la personne aussi lave tous ses mains tout bonnement et renvoie la bonne. Parce qu'elle n'a rien sur moi, je ne paye rien. Mm-hmm. La fille va énormément pleurer et puis il n'y a rien à faire. Et puis les parents ont tout bouffé. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cette raison, avec les nouvelles données, comme Tanti vient de le dire, on est en train de prendre des mesures uniquement sur ça. Tant que l'enfant est là pour travailler, elle garde son argent. Le moment dont elle doit partir, elle ramène son argent avec elle. Non seulement elle doit profiter parce que c'est elle qui a fait le labeur. C'est elle qui a subi tout les tracasseries, tout ce qui s'ensuit. Elle doit bénéficier de son argent. C'est l'un de nos combats également.
Je vous repose la même question, maître. Est-ce que quelque part, dans le cas de nos aides ménagères qui sont chez nous, est-ce que quelque part, entre guillemets, je parle sous votre contrôle, est-ce qu'elles ne profiteraient pas un peu du gain des travaux qu'elles exercent en milieu urbain?
Dans le cadre des aides familiales, là, et peut-être qu'il faut nuancer un peu.
D'accord.
Et ça dépend des familles. Souvent, comme elle a dit Marie-Doula, souvent, leur travail ne leur profite pas. Elles travaillent, les parents prennent tous les salaires. Mais souvent, il y en a qui gardent jusqu'à leur retour. Et puis ça leur permet quand même d'avoir... Si elles sont dans de bonnes conditions, dans de bonnes familles, il y en a qui sont vraiment éveillées. Il y en a qui sont vraiment éveillés. Moi, je donne un exemple. J'avais une petite chez moi qui avait à peu près 15 ans comme ça. Mais elle voulait aller à l'école. Elle voulait aller à l'école. Mais son père voulait qu'elle travaille et lui envoie de l'argent. Chaque fois, son père me dit d'envoyer son salaire. Il envoie son salaire à son père. Mais un jour, la fille, elle a pleuré. Moi, j'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Elle dit qu'elle veut aller à l'école. Ah, j'ai dit, franchement, tu as raison. Donc, ce qu'on va faire, j'avais des économies de salaire sur moi, donc je l'ai envoyé chez son père. Son père n'était pas content du tout. J'ai dit, mais il faut qu'elle veut aller à l'école, il faut la mettre à l'école. Donc, elle, parce que c'est à Bamako qu'elle a compris qu'elle doit aller à l'école. Elle écoutait l'air. J'ai payé une radio pour elle pour la distraire. Donc, elle écoutait les émissions et tout. Donc, elle a compris qu'elle doit aller à l'école. Donc, souvent, les aides ménagères, là, souvent, leur travail les profite. Mais souvent, ça ne les profite pas. Donc, on ne peut pas généraliser, quoi.
Alors, vous venez d'aborder une des questions que j'allais aussi vous poser concernant le thème national qui a été adopté ici au Mali, qui concerne les femmes qui seraient un rempart contre les pires formes de travail des enfants. Est-ce que, selon vous, c'est impératif d'impliquer les femmes dans ce combat-là?
Oui. À mon avis, c'est impératif. Les femmes ont leur rôle à jouer. Mais ça ne suffit pas. L'autre jour, je l'ai dit, parce que les femmes, même, il faut les autonomiser. Il faut les aider à lutter contre ces pires formes de travail-là, des enfants. On dit que c'est les femmes qui envoient les enfants travailler. Généralement, c'est ce qu'on dit. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Une femme qui est pauvre, qui n'a pas les moyens, elle n'a pas d'argent pour, quand la fille va être à l'âge du mariage, elle n'a pas les moyens pour payer les trousseaux du mariage.
Et qui est sûrement passée par le même chemin aussi pour pouvoir s'octroyer son trousseau.
C'est ça. Donc, souvent, elles n'ont pas le choix. Donc, il faut les aider. Il faut les aider à lutter contre ce phénomène-là. Il faut aider les familles. C'est ce que je disais l'autre jour. Nous, les femmes parlementaires, on peut voir dans les budgets quel budget l'État a octroyé pour les services sociaux de base, pour lutter contre la pauvreté, pour que les femmes ne puissent pas envoyer leurs enfants pour faire les aides familiales. Si elles ont les moyens, elles ont des machines et tout. Elles ont des activités de génératrices de revenus. Je pense qu'elles ne vont pas envoyer les enfants au travail. Ce n'est vraiment pas de gâter les cœurs.
Alors, M. Gaussou, vous pensez que c'est important que les femmes puissent mener cette lutte au même titre que les autres organisations de la société civile?
Oui, c'est vraiment important que les femmes sachent vraiment c'est quoi l'importance de l'éducation tout d'abord, éduquer les enfants, mais aussi, mis à part ça, moi je pense que les enfants aussi sont impliqués autant que les femmes. Mm-hmm. Parce qu'en tant qu'enfant, il faut tout d'abord savoir que tu as droit à l'éducation d'abord. Le droit de l'éducation, c'est vraiment le droit fondamental.
Est-ce que ça, ce n'est pas un privilège que les enfants des zones urbaines ont par rapport aux enfants qui sont dans nos localités éloignées? Est-ce que ces enfants ont connaissance que l'éducation, d'abord, est un de leurs droits?
Oui, il y a ce facteur-là aussi. Mm-hmm. Mais le Parlement aussi est en train de mener des actions de vulgarisation du droit des enfants, aussi, qui visent vraiment à aller dans toutes les régions du Mali, si possible, à vraiment vulgariser le droit des enfants, à vraiment éveiller la conscience des enfants sur l'importance de l'éducation.
Alors, qu'est-ce que le thème national vous évoque, Madame Traoré?
Bon, le thème national, cette année, nous évoque, c'est-à-dire, les femmes doivent s'engager. Les femmes doivent être la base. Parce que quand tu parles, chaque famille, chaque enfant est le reflet dans notre société ici, c'est de sa maman. Chaque maman veut avoir son enfant grandir, développer, avoir un meilleur avenir. Mais comme Maître l'a dit, souvent c'est souvent des conséquences et des causes qui poussent à certains moments à aller faire de l'autre chose. C'est de faire quoi d'abord? Dans chaque famille, il faut qu'on ait l'autosuffisance d'abord. C'est ce qu'on va interpeller même l'État. Et que ce soit le secteur privé, que ce soit la société civile, que ce soit au niveau même de l'État, que d'abord on ait l'autosuffisance. Quand chaque maman a au moins un petit revenu, génératrice de revenus, n'a pas besoin d'envoyer son enfant pour aller chercher, commander, ou même d'aller dans les rues pour avoir à manger. Si on a l'autosuffisance, on va mettre l'enfant à l'école. C'est ce que ces critiques j'ai à lancer à l'endroit de tous ces acteurs. Merci.
Dans la lutte contre le phénomène, est-ce que les femmes qui reçoivent aussi ces aides ménagères et les femmes qui côtoient généralement ces enfants en situation de travail, est-ce que le fait que ces femmes veillent aussi sur ces enfants n'est pas une solution au phénomène? Parce qu'on rencontre aussi des employeurs, des patronnes qui ne sont pas assez tendres avec ces enfants. Est-ce que en étant un peu souple avec ces enfants qui viennent travailler dans leur ménage, est-ce que cela aussi n'est pas un facteur qui peut assouplir un peu la situation au Mali?
Bien sûr. Quand je parle l'exemple sur moi-même. Quand tu as un enfant d'autrui chez toi, tu sais, un jour aussi, ton enfant doit sortir. La moindre des choses, c'est bien traiter l'enfant d'autrui. Parce qu'un jour, ton enfant aussi sortira. Quel sort aussi ton enfant aura? Ça va dépendre de la conscience personnelle même de madame. Parce que quand on est une bonne personne, tu es une bonne personne. Quand on est mauvais. Sur ce, j'interpelle à tous les mamans, que ce soit ton enfant ou l'enfant d'autrui, il faut le traiter de très bien.
Alors, les mamans qui doivent bien traiter tous les enfants qui sont chez elles. Alors, le thème mondial est « Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants ». Quels sont les engagements pris au niveau du Mali pour un peu lutter contre le phénomène, Madame Maître Kadiatou?
Oui, merci beaucoup pour cette question. Le Mali, à l'instar des autres pays, a élaboré un cadre juridique quand même pour lutter contre ce phénomène-là. Et le Mali a ratifié des textes sur le plan international, sur le plan africain, et puis a élaboré des textes nationaux aussi pour lutter contre ces phénomènes-là. Sur le plan international, on peut citer la Convention relative aux droits de l'enfant. Et en 90, le Mali a même co-présidé ce sommet-là, ce sommet mondial, qui a élaboré cette convention-là. Il y a cette convention qui a listé les droits de l'enfant,
CDE,
que le Parlement des enfants connaît bien les droits de l'enfant. Il y a, sur le plan africain, il y a la Charte des droits et du bien-être de l'enfant. Sur le plan africain, ça c'est un texte régional que le Mali a ratifié. Il y a aussi, dans le cadre de l'Organisation internationale du travail, il y a toutes ces conventions, la convention 182, il parlait de ça, que le Mali a ratifié. Tout ça pour lutter contre le travail des enfants. Il y a des textes, il y a des protocoles aussi contre la pornographie enfantine, pour protéger les enfants. Il y a beaucoup de textes que le Mali a ratifiés.
Mais pourquoi avec tous ces textes, le phénomène continue encore dans le pays?
Ah oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que pour mettre en œuvre ces textes-là, on ratifie, hein. L'application aussi, c'est autre chose. Il y a même des textes nationaux, hein. Et le Code du travail. Le Code du travail est là. On a des textes qui sont là. Le Code de protection de l'enfant qui est là. Malgré tout, le phénomène persiste. Parce qu'on vous a dit, hein, c'est un phénomène de pauvreté. Il faut lutter contre la pauvreté. C'est un phénomène, c'est un problème de crise, de conflit, hein, crise humanitaire. Il faut soigner. Il faut bannir les causes d'abord. Sinon, les textes là, le cadre juridique est là. Il y a même une cellule de lutte contre le travail des enfants. Que M. Cham est le directeur de cette cellule-là, qui est là pour identifier, même enlever les enfants de ces situations-là. Mais malgré tout, ça persiste. Ça persiste pourquoi? C'est ça. Chacun est responsable. Chacun est responsable. Il y a les syndicats qui sont responsables, il y a les employeurs qui sont responsables, les femmes sont responsables, l'État même est responsable de ça. Il faut mettre en œuvre les textes, non seulement les textes que nous avons ratifiés, mais aussi les textes que nous avons élaborés sur le plan national. C'est ça, la mise en œuvre pose problème, parce qu'il faut mettre les moyens. Il faut envoyer les enfants à l'école. Tous les enfants doivent être à l'école. Mais pourquoi tous les enfants ne sont pas à l'école? C'est ça la question.
Alors, M. Gaoussou, pourquoi avec tous ces textes ratifiés par le Mali, et les enfants continuent encore à travailler et dans les champs et sur les sites d'orpaillage? Selon vous, qu'est-ce que les autorités peuvent faire pour changer cela?
Okay, tout d'abord, il faut comprendre que le Mali a ratifié plusieurs textes concernant le droit des enfants, mais aussi contre le travail des enfants, mais aussi l'application de ces textes aussi, c'est une autre chose. Donc c'est de là, nous au Parlement, on est en train de mener plusieurs activités de sensibilisation, on a plusieurs notes de plaidoyer qu'on a données au gouvernement sur vraiment l'application ferme de ces conventions. Et aussi aux autorités, les autorités doivent suivre de très près les entreprises et surtout les sites d'orpaillage concernant le travail des enfants.
Donc vous pensez que les autorités doivent complètement aller sur ces sites-là et retirer les enfants, ou bien qu'est-ce qu'ils devraient faire? Parce que on l'a dit dans le débat, les parents, généralement les parents de ces enfants sont pauvres. En enlevant ces enfants de ces sites-là, de quoi vont vivre également les parents? Qu'est-ce qu'il faut faire impérativement aujourd'hui? Les retirer définitivement ou accorder un moyen de subsistance aux parents?
Okay, tout d'abord, les autorités doivent apporter un moyen de subsistance aux parents et localiser toutes les sites d'orpaillage ici au Mali, essayer d'enlever ces enfants, parce que le problème c'est que même si tu enlèves les enfants des sites d'orpaillage, qu'est-ce qu'ils vont devenir après? C'est là la question. Et aussi, l'État doit créer des centres de formation professionnelle tels que la souderie, la menuiserie et tout, pour vraiment essayer d'insérer ces enfants afin qu'ils puissent vraiment contribuer au développement de l'État, au développement du pays aussi.
Alors, Madame Traoré, Marietou, c'est nous. Au Mali, il y a un plan d'action national de lutte contre le travail des enfants adopté depuis juin 2011, si je ne me trompe. Est-ce que ces documents aussi ont contribué à limiter un peu le phénomène au Mali? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, effectivement, puisqu'on a progressé un peu la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants. Ces documents-là, d'abord, comme il vient de le dire, c'est le suivi de certaines recommandations de ce qui a été dit, c'est-à-dire les protocoles, les conventions, les droits qui ont été ratifiés par le Mali. C'est de valoriser la mise en œuvre de ces recommandations-là. Et comme si on a, on va appeler même le, au niveau international, que si on met ces conventions et ces états-là ratifiés, il faut qu'on les accompagne. Et cet accompagnement également, ça nécessite également des moyens pour que chacun, comme le Parlement vient de le dire, il faut notre suffisance. Depuis le premier départ, c'est ce que j'avais dit. Si nous vivons dans un état de pauvreté, quels sont les moyens que chaque famille doit avoir pour que chaque enfant puisse aller à l'école? Et dans la stratégie, c'est ce qu'il trouve. Puisque à un certain niveau, quand vous faites les études, vous trouverez que la plupart des cas, voilà le phénomène. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bannir le phénomène? Chaque enfant, nous allons interpeller ici l'État également, de faire le suivi des recommandations de tous ces droits qui ratifient, toutes les conventions qui ratifient. Même si chaque ratification, il y a des moyens de vulgarisation. Et ces moyens de vulgarisation aussi, on l'appelle l'opinion internationale. Quels sont les moyens qu'il va mettre à la disposition de chaque État qui ratifie pour que ces dispositions puissent être appliquées dans leurs États et de suivre à la règle?
Alors, Maître Khadija, vous pouvez nous donner un peu quelques contenus saillants de ce programme national de lutte contre le travail des enfants?
Bon, nous avons souhaité avoir, vous fournir même ce plan. Mm-hmm. Je crois que la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, comme vous l'avez dit, mm-hmm. a été créée par une loi mm-hmm. en 2010. C'était pour mener des recherches, pour obtenir des statistiques sur le travail des enfants. D'avoir des statistiques, il faut connaître l'ampleur du phénomène. Il faut aussi faire la liste des formes. Il faut aussi la liste des formes de travail. Les formes dangereuses, les pires formes. Et ils ont plusieurs axes. Il y a plusieurs axes dans ce document-là. Donc, je crois que ce document en soi est vraiment très, très, très important. Et il y a même un directeur qui est nommé, qui était avec nous l'autre jour. Mmh. Et donc, je pense que essentiellement, c'est ça. D'abord, les statistiques, les formes de travail, les pires formes, travail dangereux. Il y a combien d'enfants dans cette situation? Je crois qu'il mène des réflexions aussi pour voir comment est-ce qu'il faut identifier ces enfants, font des recherches pour identifier ces enfants-là, comme il a dit, dans les mines, les enlever aussi. Mmh. Ils les enlèvent de ces mines-là. Ils les mettent dans des... Peut-être qu'ils les confient dans des... Ils les confient à des ONG comme Indatiermonde qui font des activités professionnelles, des apprentissages. Je crois qu'ils font des
l'insertion socio-professionnelle de ces enfants.
Voilà, la réinsertion socio-professionnelle de ces enfants-là, essentiellement. En tout cas, l'objectif, c'est de lutter contre les pires formes de travail des enfants.
Alors, quelles sont les conséquences du travail des enfants sur les enfants eux-mêmes, mais aussi sur le développement d'un pays?
D'abord, ça nuit au développement du pays. Mm-hmm. Ça nuit non seulement à l'enfant lui-même, ça nuit au développement du pays, parce que vous savez le combien d'enfants ne va pas à l'école, sont victimes de ce phénomène-là. Donc, ça nuit au développement du pays. Ça nuit à la santé de ces enfants-là. Ce sont des enfants qui sont dans les mines, exposés à des produits chimiques. Ça nuit à leur santé. Les enfants qui sont exposés à la prostitution, ça nuit à leur santé. Ça les empêche d'aller à l'école. Ça, c'est vraiment très, très important. Ça, c'est une des conséquences du travail des enfants. Ça les empêche d'aller à l'école, entre autres.
Mmh. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cela parmi les conséquences du travail des enfants, M. Gaussou?
Ok. Parmi les conséquences du travail des enfants, mmh. tout d'abord, même, il y a la mort. Mmh. On peut dire qu'il y a des enfants dans les sites d'orpaillage qui meurent tout le temps, même si on n'est pas au courant, même si la population n'est pas au courant. Nous, au Parlement, on a fait, avec l'aide des ONG, on a des recherches sur ça. Il y a des enfants qui meurent aussi dans les champs de plantation au Mali. Je pense que c'est tout.
Qu'est-ce que vous pouvez ajouter, Madame Traoré?
Oui, ce que je peux juste ajouter, au niveau Mali, on sait que la population malienne est très jeune, à hauteur de 70%. Et les enfants aussi, Selon les dernières statistiques de 2020, on a dit qu'il y a 35% des enfants de 5 ans à 17 ans sont exposés aux pures formes de ce travail. Mais si on se tape la poitrine pour dire que nous avons une population jeune, et cette population jeune, la plupart de ces populations est mourant ou bien est droguée, quel devenir nous on va, quel avenir nous on va parler, quel état on va parler, puisque quand on parle d'état, ça veut dire qu'il y a les hommes, il y a les enfants. Si nous n'avons même pas d'enfants, qu'est-ce qu'il faut faire?
Mais au sein de votre association, est-ce que vous organisez des campagnes de sensibilisation à l'endroit des parents et des employeurs?
Bien sûr, même au niveau des deux centres, les centres de réinsertion socio-professionnelle, au niveau des boulets minières. Chaque fois, on essaie de faire des campagnes de sensibilisation pour au moins éradiquer ces enfants-là à un meilleur sentiment, pour insérer aussi au niveau de la société. Ça, c'est des choses qu'on le fait. Les parents aussi, c'est le même cas. Quand tu prépares bien un enfant, tu as un bel avenir. C'est une bonne opportunité. Mais depuis la bas âge, quand vous exposez l'enfant, vous vous exposez vous-même. Parce que quand vous arrivez à un terme dont vous ne voulez rien faire, qui va te prendre? Soit c'est l'enfant d'autrui, sinon ce n'est pas ton enfant quand même. C'est des campagnes de sensibilisation et ces messages-là qu'on passe aux parents pour qu'ils comprennent l'importance même pour protéger, éduquer et donner vraiment de l'amour à son enfant.
Alors, maître, vous, à votre niveau au CNT et avec les femmes parlementaires, quelles sont les actions que vous menez au sein du CNT et au niveau de vos différentes organisations pour lutter contre le travail des enfants au Mali?
Bon, j'avoue franchement que le CNT, c'est l'organe législatif de la transition. Mm-hmm. C'est le Parlement de la transition. Et le CNT, comme l'Assemblée nationale, est organisé en commission. Et la commission qui s'occupe de ces questions-là, c'est ma commission. C'est la commission que je préside, la commission protection de l'enfant. Et nous avons, comme parlementaires, nous avons des missions qui sont bien précisées dans la Constitution. Mm-hmm. C'est-à-dire que notre rôle, c'est de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale. Chaque fois qu'il y a un texte, un projet de texte qui concerne les enfants, nous travaillons sur ce projet de texte-là. Mm-hmm. Et nous faisons en sorte que l'intérêt supérieur de l'enfant soit sauvegardé. Et le contrôle de l'action gouvernementale va consister aussi à contrôler le suivi de la mise en œuvre justement des textes que le Mali a ratifiés. Qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport à ce phénomène-là? Ça, c'est fait partie de notre rôle. Nous pouvons interpeller les ministres. Nous pouvons leur adresser des questions orales, des questions écrites par rapport à ce phénomène du travail d'enfants.
Est-ce que vous en avez déjà fait?
Pour l'instant, nous n'avons pas encore fait ça. Mais je suis en train de vous expliquer d'abord notre devoir.
Je comprends.
Voilà. Et lorsqu'on vote le budget aussi, il faut voir est-ce que ce budget, est-ce qu'il y a assez de fonds alloués à la lutte contre la pauvreté, à l'éducation, pour qu'il y ait plus d'enfants à l'école. Ça, c'est ce que les textes disent. Mais et dans la pratique, pour l'instant, nous n'avons pas eu à travailler spécifiquement. J'avoue que nous n'avons pas eu à travailler spécifiquement sur ce phénomène qui est très, très important, parce que les enfants, c'est notre avenir.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour diminuer un peu le phénomène au Mali?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun a son rôle à jouer. Je vais parler de l'État. L'État doit vraiment faire en sorte que l'éducation, que plus d'enfants aillent à l'école. Ça, c'est très, très important. L'éducation. Remettre les enfants à l'école. Les enfants qui sont dans ces mines-là et qui sont en train de mener des travaux là, pénibles, là, il faut les remettre à l'école. Les identifier et les mettre à l'école. Je crois que c'est ce que la cellule de lutte contre les pires formes de travail est en train de faire. Il faut offrir des opportunités aux enfants qui sont âgés, des opportunités de formation professionnelle. Ça, c'est important. Il faut aider aussi les familles. Il faut que l'État aide les familles à développer des sources de revenus, des activités génératrices de revenus. Il faut aussi sensibiliser et former l'ensemble de la population, les femmes, les familles, Et l'État aussi doit jouer ce rôle-là, mais la société civile aussi doit jouer ce rôle-là de sensibilisation, d'information et de formation. Et même d'aide. Il faut même aider certaines familles qui sont vraiment démunies, qui n'ont pas d'autre choix que d'envoyer leurs enfants dans les mines.
C'est ce qui met fin à notre débat d'aujourd'hui, dont le thème portait « Quel rempart contre le travail des enfants au Mali ?» Nos invités étaient Maître Khadija Sangaré Koulibaly, membre du CNT, président de la Commission Promotion de la Femme et de la Famille, Protection de l'Enfant. Le second invité était Madame Traoré Marie Toussenou, secrétaire exécutive de l'Association Bienfaisance pour l'Enfance au Sahel et les Initiatives Citoyennes BESIC. Daoussou Mohamed Diallo, elle est trésorier général du Parlement des enfants. Il était notre troisième invité. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission. La technique était gérée par Sidou Dao et Gagné Kanté. Merci à vous de l'avoir suivi. On se dit à demain, Inch'Allah.